Comme vous l'avez peut-être remarqué, on débute une série sur l'épître de Paul aux Philippiens. Alors j'apprécie l'idée de prendre quatre dimanches où on aborde, on survole un livre biblique. Ça permet d'avoir un peu une vue d'ensemble. J'aime bien ça. Et puis, pourquoi l'épître aux Philippiens ? Alors c'était printemps dernier, Roland m'avait demandé, dit « Mais pour le mois d'octobre, est-ce que tu aurais à cœur de prendre un livre biblique ?» Alors moi, je n'étais pas du tout en mode pasteur là, à ce moment-là. Et puis je réfléchissais, je lui dis « Donne-moi quelques jours » et puis voilà, plus je réfléchissais, plus je me dis « Mais l'épître aux Philippiens, il y a quelque chose. » Cette lettre est caractérisée par le thème de la joie. On retrouve 60 occurrence du mot « joie » ou « se réjouir » dans l'épître aux Philippiens. Une épître de 4 chapitres. La joie. Mais je vous rassure, il ne s'agit pas simplement d'afficher un grand sourire le dimanche pour dire « c'est bon, j'ai rempli les objectifs ». La notion de joie dans l'épître est intimement liée à la progression de l'Évangile dans l'Église. Ce n'est pas simplement avoir de bons sentiments, se sentir bien, être heureux. La joie dont il est question, c'est la progression de l'Évangile. Ce n'est pas bannir toute souffrance. Non, au contraire, c'est avec la souffrance. Mais comment est-ce que je vais faire progresser l'Évangile ? Alors, avec la dynamique d'église qu'on a maintenant, des nouveaux locaux, un nouveau pasteur, un week-end d'église en perspective, il me semblait bien de nous rappeler ensemble ce qu'était que l'Évangile, faire progresser l'Évangile. Quelle est cette joie de l'Évangile ? Et puis l'épître aux Philippiens, tout pratiquement, c'est aussi une épître qui est facile à lire, qui est plaisante à lire. On n'a pas de grand exposé théologique comme on pourrait le trouver dans l'épître aux Romains. C'est sympa, c'est positif. Paul ne reproche rien ou pas grand-chose à cette Église. Au contraire, il la félicite, il l'encourage. Et durant ces semaines, je vous encourage aussi à méditer cette épître aux Philippiens. Ce matin, on parle des deux premiers chapitres de cette épître. Et je vous poserai cette question-là. Alors, question un petit peu bateau. Vous verrez qu'elle a tout son sens. Comment être un meilleur chrétien ? Comment être un meilleur chrétien ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de se poser cette question-là ? Comment est-ce que je peux être un meilleur chrétien ? Moi, oui. Et cette question, elle est frappante parce qu'on peut lire à plusieurs reprises, et notamment dans l'épître aux Philippiens d'ailleurs, que Paul dit « Ayez une attitude, une conduite irréprochable ». Ah oui, il met la barre haut. Comment faire ? Comment faire ? Et ce matin, je propose de suivre un cours. Alors, pas n'importe quel cours, mais le cours que Paul donne aux Philippiens. Et de voir comment les Philippiens se comportent aussi face à cette question de comment être un meilleur chrétien. Alors je vous propose qu'on lise le manuel de cours, ça se trouve dans Philippiens 1, verset 27, au chapitre 2, verset 18. Je ne vais pas tout lire, je vais lire seulement quelques bouts, donc c'est normal si tout d'un coup il y a un saut qui se fait. Philippiens 1, 27. « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. » Ça, c'est le titre du cours. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire, poids de l'évangile, vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Puisqu'il y a de l'encouragement en Christ, puisqu'il y a la consolation dans l'amour, puisqu'il y a une communion de l'esprit, puisqu'il y a une tendresse, de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord, en ayant un même amour, un même cœur, une unité de pensée, en ne faisant rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, en considérant les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Si je vais plus loin, faites tout cela sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour du Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. J'arrête notre lecture ici. Voilà tout un programme. Le cours est complet, condensé. Je propose de le parcourir pas à pas. On va reprendre différents éléments de ce texte et avancer ensemble. Vivre d'une manière digne de l'Évangile, verset 27. Ce verset, comme j'ai dit, est le titre. Tout ce qui suit, c'est que le développement de comment vivre d'une manière digne de l'Évangile, comment être un meilleur chrétien. Et ce développement, on peut le résumer par trois questions. Tac, alors. Les questions viennent tout de suite. Je vais allumer. Tac. Voilà, c'est bon. Je ne sais pas si c'est moi qui ai fait ou c'est toi qui as... C'est toi, ok. Merci Cédric. Je me dis, j'ai réussi un truc fou, mais non. Du coup, trois questions. Comment vivre d'une manière digne de l'Évangile? Pourquoi? Et finalement, où? On va prendre la première. Dans ces Paul commence fort. Dans ses premiers versets, il compare la vie chrétienne à celle d'un combat. En quatre versets, il y a quatre termes utilisés qui sont en lien avec la guerre. Ça commence bien. Et l'image doit être marquante pour les Philippiens. Parce que la ville de Philippe était une colonie romaine où beaucoup d'anciens soldats, des militaires à la retraite, y vivaient. Donc c'était une ville très romanisée avec beaucoup de militaires. Du coup, le thème de la guerre, ils connaissaient un peu. Ce n'était pas à eux qu'on allait leur apprendre la stratégie militaire. Et Paul utilise ce vocabulaire, un vocabulaire qui leur parle, pour les inviter à tenir ferme. Et tenir ferme, dans le jargon militaire, signifiait ne pas céder un centimètre de terrain. Ne pas céder un centimètre de terrain. Ce n'est pas seulement un état d'esprit, c'est aussi une lutte concrète. Dans l'adversité, les Philippiens doivent s'unir et tenir ferme. Ce qui est significatif, c'est aussi que Paul utilise le mot « combattre d'un même cœur ». Et ce mot en grec veut dire « combattre avec ». Et le mot qui est utilisé en grec, je trouve intéressant, est utilisé seulement deux fois dans le Nouveau Testament. Et les deux fois, c'est dans cette épître aux Philippiens. Paul ne parle pas seulement de combattre, mais il ajoute un petit mot qui dit combattre avec. Ce que Paul est en train de dire, c'est que le combat ne se mène pas seul. Il insiste sur la communauté. Il met l'accent sur la communauté. Alors, si on reprend notre première question, comment être un meilleur chrétien, on peut déjà dire qu'être un meilleur chrétien, c'est faire corps avec nos frères et sœurs. Ce n'est pas rester seul dans son coin, à lire de la théologie, à regarder des vidéos YouTube. Là, ce que Paul nous dit, c'est faire corps avec, être avec. Et bien sûr, je vous encourage à lire de la théologie et des vidéos YouTube édifiantes, ça c'est sûr. Hein. Je suis le premier à le faire. Mais ce qui compte, c'est d'être avec l'autre. C'est avec les autres. L'Église n'est pas une armée de combattants désordonnés, mais une armée unie, qui fait corps ensemble, et particulièrement quand c'est difficile. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il va encore un peu plus loin. Et il va nous dire maintenant, mais comment on le faire ? Faire corps ensemble. C'est bien beau, mais comment le faire ? Et Paul est très très concret. Et on va lire les versets du chapitre 2, 1 à 4. Non ? Ah voilà, c'est bon. Ces versets, ces quatre versets sont en fait une seule phrase. Alors il y a d'abord des conditions qui sont posées, des conditions qui sont là pour ceux qui sont chrétiens, qui sont au bénéfice de la grâce de Christ. Et ces conditions, c'est puisqu'il y a de l'encouragement en Christ, puisqu'il y a de la consolation dans l'amour, puisqu'il y a une communion de l'esprit, puisqu'il y a de la tendresse et la compassion, alors, mes copains, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Et là, c'est un impératif. Il n'y a pas le choix. Ce que Paul demande, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Et Paul poursuit ensuite avec des implications très concrète. Vivre en plein accord les uns avec les autres consiste à vivre en ayant un même amour, un même cœur, une unité de pensée, en ne faisant rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, en considérant les autres comme supérieurs à vous-même. En ne regardant pas ses propres intérêts, mais aussi à ceux des autres. Voilà comment Paul invite les Philippiens à faire corps, à tenir ferme. Il utilise le combat, on pourrait s'attendre à ce qu'il les invite à faire du fitness ensemble, mais il les invite plutôt à l'humilité et à s'élever les uns les autres. Permettez-moi encore de faire un peu de grec. Encore deux fois, après j'arrête. Le mot grec qui est utilisé au verset 4, en ne regardant pas ses propres intérêts mais aussi à ceux des autres, ce mot grec implique de se décentrer de soi et de veiller aux autres, de veiller aux intérêts des autres. Ce n'est pas seulement chercher à ce que les autres soient bien, mais ça nous touche personnellement, il y a une implication de notre part, c'est qu'on se décentre de nous-mêmes pour regarder aux intérêts des autres. Non pas mes intérêts à moi, mais qu'est-ce que l'autre a besoin ? À quoi est-ce que je dois renoncer pour que l'autre s'épanouisse ? Alors, imaginez l'église de Philippe qui entend ça. Avec quelques militaires, certains haut gradés peut-être. Ils savaient comment combattre, la stratégie militaire, il n'y avait pas de secret. Et imaginez la surprise quand ils ont entendu ces phrases. Comment ça ? Me décentrer de moi pour élever les autres ? Il faut savoir que dans le monde romain, le statut, la position, la hiérarchie étaient très importantes. Et l'humilité était vue comme une régression. C'était montrer sa faiblesse. C'était vivre à un statut inférieur. Alors les militaires qui entendent un peu qu'il faut avoir cette humilité-là, ils devaient se dire ouais, ça va pas être facile, il y a des défis, mais Paul va à l'encontre de la culture de l'époque. Pour Paul, l'humilité, c'est pas une régression, mais c'est le fondement essentiel à la vie chrétienne. Comment être un bon chrétien? Comment vivre d'une manière digne de l'Évangile? C'est en gardant un esprit d'unité et d'humilité. Pourquoi l'humilité? On arrive à cette deuxième question. On a vu le comment, on est au pourquoi. Pourquoi vivre cette humilité? Paul ne sort pas cette humilité de nulle part. Elle est toute motivée par l'exemple de Christ. Et pour appuyer ce qu'il est en train de dire, d'inviter les Philippiens à l'humilité, Paul cite un hymne, probablement un hymne de l'Église primitive, qui va décrire la disposition de cœur qu'avait Jésus. Et cet hymne, je ne l'ai pas lu dans la lecture avant, mais je me ferai un plaisir de vous le lire maintenant sous forme de prière. Seigneur Jésus, toi qui es de condition divine, tu n'as pas regardé ton égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Tu t'es dépouillé toi-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, tu t'es humilié toi-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu t'a élevé à la plus haute place et t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que tu es Jésus-Christ, le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Quel exemple. Je dois vous dire, en préparant cette prédication, quand j'en suis arrivé là, je ne savais plus quoi écrire après. Tellement cet hymne m'a bouleversé. La valeur de Christ ne résidait pas dans les honneurs d'être une divinité, mais dans son abaissement. C'est là qu'il tirait sa valeur, d'être un serviteur. Jésus opère un décentrement de lui-même. Il renonce à quelque chose pour se centrer sur les autres. Jésus a manifesté la forme de Dieu dans celle d'un serviteur. Quelle preuve d'humilité. Dieu, tout-puissant, créateur, se fait homme pour venir sauver le monde. Ma troisième parenthèse de grec, c'est sur le mot doulos. Ce mot veut dire esclave. Et ce mot est utilisé ici pour parler de Jésus. C'est la seule fois dans les lettres de Paul que le mot « doulos », esclave, est accolé à celui de Jésus. Et ce mot désigne celui qui est tout en bas de l'échelle sociale. Christ, qui était de condition divine, s'est fait le plus bas des hommes pour nous sauver. Et Paul dit aux Philippiens et les copains, c'est sur cet exemple de Christ que votre vie chrétienne doit être fondée. C'est sur cet exemple de Christ que votre humilité doit être fondée. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel. On a l'exemple parfait. pratiquer maintenant. Quand je vous posais la question « Comment être de meilleurs chrétiens ?», ce n'est pas forcément en appliquant une liste de points, mais c'est surtout et avant tout sur la base de ce texte. Ce texte qui part de l'abaissement de Christ, que nous pouvons être de meilleurs chrétiens. Il reste la troisième question. Où ? Où être de meilleurs chrétiens ? Après avoir parlé de cet hymne, Paul reprend en fait le contenu des premiers versets. Je ne vais pas faire le parallèle maintenant, je vous encourage à le faire à la maison si vous voulez. Paul reprend le contenu des premiers versets, mais il va un peu plus loin. Il nous donne la portée d'une vie digne de ses couilles. Et on la trouve au verset 15 et 16. « C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. » Les Philippiens sont invités à mettre en œuvre le salut brillant dans le monde. Par l'unité, par l'humilité. Et mes amis, la bonne nouvelle, c'est que nous aussi, Église de Cossonay, nous sommes porteurs de cette parole de vie. Voilà un aperçu de ce premier cours que Paul donne aux Philippiens. Enseignement vraiment magistral, superbe. Avec cette leçon d'exemple de Christ au milieu. Et si je reprends ma question de départ, comment être un meilleur chrétien ? On l'a vu. Être uni. Être humble. Ainsi, on brillera dans le monde comme des flambeaux. Et j'ose le dire, dans cette belle ville de Cossonay. Alors, on a terminé ce cours. Il y a toujours des devoirs à faire, comme à l'école. C'est pas moi qui vais vous les écrire au tableau. Mais j'aimerais qu'on prenne quelques secondes de silence pour laisser résonner ces paroles, ce texte que nous avons lu, à ouvrir nos agendas du cœur. Et puis peut-être que Dieu va nous dire, mais en fait, là, moi, j'aimerais te mettre des leçons, des devoirs. Avec beaucoup d'amour, bien sûr. Mais peut-être que Dieu nous montrerait quelque chose à faire en réponse à sa parole. Je vous invite à quelques secondes de silence et je conclurai par la prière. Si tu nous invites à l'unité et à l'humilité, c'est parce que toi, tu as d'abord passé par ce chemin-là. Tu es l'exemple parfait. Et parce que tu as choisi ce chemin-là, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes tes enfants. Seigneur, aide-nous, à notre tour aussi, avec nos faiblesses, nos difficultés à marcher sur ce chemin d'unité et d'humilité. Seigneur, comme toi tu l'as fait, aide-moi à me décentrer de moi-même pour me centrer sur les intérêts des autres. Afin que ta parole, Seigneur, soit proclamée et que ta gloire soit manifestée dans cette communauté, mais aussi au-delà. En ton nom, Jésus. Amen. Amen.